Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez dans un instant, comme tous les matins. Vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Vous connaissez le principe, hein. S'il vous manque des clés pour décrypter les sujets que nous traitons à l'antenne dans nos différents journaux, et bien surtout, n'hésitez pas, appelez-nous ici à Paris et nos experts au sein de la rédaction, nos correspondants, nos envoyés spéciaux vous répondent en direct pour nous rejoindre. Un seul numéro de téléphone, le 33 9 693 693 70. Vous nous envoyez également vos questions sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission, en nous indiquant en message privé, évidemment, vos coordonnées afin que nous puissions vous recontacter. Et puis dans 30 minutes, vous pourrez commenter les propos du président sénégalais Macky Sall. Mardi, vous l'avez certainement suivi chez nos confrères de France 24, le chef de l'État n'a pas exclu la possibilité d'amnistier Karim Ouad et Khalifa Sall, deux adversaires politiques condamnés par la justice. Interrogé sur cette perspective, voici ce qu'il a répondu. Je ne peux pas écarter en cas de réélection d'engager une nouvelle phase pour la reconstruction nationale dans un esprit de renouveau national, de consensus national. Oui, je pense qu'il faut tourner des pages. Alors, que vous inspire cette déclaration? Est-elle finalement de nature à calmer les tensions à 3 mois de la présidentielle? En tout cas, l'opposition n'a pas tardé à réagir. Elle dénonce un chantage. 33 9 693 693 70. On a envie de vous entendre sur cette actualité. Vous êtes très nombreux sur la page Facebook de l'émission. Le débat est passionnant sur les réseaux sociaux. Nous vous donnerons la parole donc dès 8h40, temps universel. Mais d'abord, vos questions. Kalilou nous a contacté de Cotonou. Bonjour Kalilou.
Oui, bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs.
Des questions sur la situation sécuritaire au Mali, dans le cercle de Banamba, à moins de 200 km à l'ouest de Bamako.
Oui, au Mali, l'armée a annoncé avoir établi la situation à Banamba après la récente poussée djihadiste. Alors, quels moyens ont été déployés par l'armée et quel a été le bilan de cette intervention? Et aussi, je voudrais savoir comment est-ce que les autorités comptent-ils assurer la sécurité des enseignants et des élèves en cas de représailles de la part des djihadistes?
Oui, vous parlez des enseignants et des élèves, puisque ces présumés djihadistes ont obtenu la fermeture de plusieurs dizaines d'écoles dans ce secteur, le cercle de Banamba. Bonjour Serge Daniel.
Juan, bonjour à Paris, et Khalilou, bonjour à Cotonou.
Serge Daniel, correspondant de RFI à Bamako. Rappelons que des jeunes se présentant comme des djihadistes fidèles au prédicateur radical Amadou Koufa ont tenté de faire respecter leurs lois dans plusieurs localités. Ils ont exigé que la charia soit appliquée, que l'enseignement soit désormais religieux. Khalilou l'évoquait à l'instant, ils ont fait fermer une vingtaine d'écoles où le français était enseigné. Du coup, l'armée est intervenue. Quels étaient les moyens déployés?
Alors, Juan, en termes de moyens, d'abord humains, l'armée ne communique pas de chiffres précis. Mais selon des habitants des localités maliennes où plus d'une vingtaine d'écoles avaient été fermées après les menaces de présumés djihadistes, les troupes maliennes étaient dirigées par un officier supérieur d'un camp militaire de Kati, près de Bamako. Ensuite, il y a eu plusieurs dizaines de militaires maliens qui ont été aperçus, vus sur le terrain, des militaires, mais également des véhicules, du matériel, et que la stratégie adoptée était un peu la suivante. C'est que les présumés djihadistes armés faisaient le tour des villages pour menacer. L'armée a débarqué par surprise, montré ses muscles. Il n'y a pas eu de corps à corps. Les fauteurs de troubles, ont décampé. L'armée a aidé ensuite les élèves, les enseignants à l'école, à rouvrir les écoles, par exemple celle de la localité de Tobakoro.
Ouais, vous disiez que les fauteurs de troubles ont décampé, c'est-à-dire que certains des présumés djihadistes ont pris la fuite à bord de motos. Quel est le bilan de cette opération, Serge?
Officiellement, il y a une dizaine d'arrestations de présumés djihadistes ou de supposés complices, la plupart d'ailleurs transférés à Bamako. Maintenant, les interrogatoires se poursuivent ici, dit-on. En attendant, les écoles, un moment fermées à l'ouest de Bamako, fonctionnent à nouveau.
D'accord, donc les écoles fonctionnent. Kalilou nous demandait comment les autorités comptent-elles désormais pour garantir la sécurité des enseignants et des élèves. Rappelons, Serge, que c'était la première fois tout de même dans ce secteur que des présumés djihadistes exigeaient la fermeture d'écoles. Ça signifie quoi? Que l'armée restera de façon permanente dans ce secteur ou pas?
Alors, ce que dit l'armée ici ou les sources sécuritaires, c'est qu'il y aura désormais un dispositif de sécurité renforcé dans la zone de Banamba. Voilà, grâce à vous, j'y arrive. Et ce n'est pas un militaire pour protéger un enseignant ou un militaire pour un élève, mais un dispositif pas trop visible d'ailleurs, et qui permettra, dit-on ici, d'intervenir en cas de besoin à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde de Banamba. Et ce matin, nous avons appelé la localité. Effectivement, ce dispositif est sur place.
Est en vigueur, donc. Kalilou, a-t-on répondu à vos questions?
Oui, merci beaucoup. 5 sur 5.
5 sur 5, tant mieux. Merci évidemment à Serge Daniel, notre correspondant à Bamako. Il était en direct avec nous de la capitale malienne où il est 8h16. D'ailleurs, vous qui êtes au Mali, si vous souhaitiez réagir aux récents événements dans ce secteur de Banamba, appelez, témoignez. Nous vous donnerons la parole demain, vendredi, puisque le vendredi, vous le savez, c'est la libre antenne et vous réagissez à l'actualité de votre choix. Voilà un sujet qui a dominé et qui domine encore l'actualité cette semaine. C'est cette volte-face de l'opposition en République démocratique du Congo, puisque cette unité de l'opposition autour d'un candidat commun en vue de la présidentielle n'aura tenu que 24 heures. On en a beaucoup parlé, évidemment, sur cette antenne. Et forcément, cela suscite de nombreuses interrogations, de nombreuses questions. Bonjour Guy Roger.
Bonjour à toute l'équipe d'appel sur Actu, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Merci de nous écouter à Libreville au Gabon. On vous écoute, quelles sont vos questions?
Alors, en RDC, l'opposition a désigné à Genève un candidat commun à la présidentielle. L'accord a été rompu moins de 24 heures plus tard. Pourquoi M. Tshisekedi et Kamere ont-ils signé l'accord de Genève en sachant que leur base y serait opposée? Quels sont les motifs réels de ce revirement?
Alors, c'est vrai que pour justifier leur décision, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont invoqué la pression de leur base. Pas question pour les militants de l'UDPS et de l'UNC de voter pour un candidat autre que le leader de leur parti. Bonjour Léa-Lisa Vesterhoff.
Bonjour Juan, bonjour Guy Roger.
Merci d'être avec nous, journaliste au service Afrique de RFI. Expliquez-nous, Léa-Lisa, pourquoi ces deux leaders de l'opposition ont-ils signé cet accord, sachant pertinemment qu'il serait contesté par la base?
Oui, hein, vous le disiez, c'est l'argument qu'ils ont invoqué. Ils ont dit tous les deux avoir signé en leur âme et conscience, mais qu'ils ont ensuite été soumis à une forte pression de leur base. Alors ça paraît difficile à croire, hein, vu la rapidité de leur revirement et le fait qu'ils n'aient finalement même pas tenté de convaincre leurs militants. D'ailleurs, dans le cas de l'UDPS, beaucoup de militants étaient déjà convoqués au siège du parti le lendemain de la signature de cet accord pour manifester. Tout cela semble donc avoir plutôt été organisé. Alors, du coup, est-ce à dire qu'il s'agissait d'un calcul politique, de naïveté, de manque de maturité politique, comme l'ont écrit certains internautes? Ce qui est sûr, c'est que les autres signateurs de cet accord, eux, sont convaincus que Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, dès lors qu'ils ont su qu'ils n'étaient pas le candidat commun choisi, dès ce moment-là, ils ont tous les deux voulu sortir de cet accord et le torpiller. D'ailleurs, et c'est un détail qui compte, hein, les 7 opposants ont signé cet accord de coalition avant de savoir qui serait désigné candidat commun. C'était évidemment une stratégie pour éviter les remises en question a posteriori, mais on le sait, ça n'a pas marché.
Ça n'a pas marché, évidemment. Alors, beaucoup d'auditeurs ont pointé du doigt l'égocentrisme de ces deux personnalités politiques, des auditeurs qui nous disaient Tshisekedi, Kamerhe privilégie leur intérêt personnel à l'intérêt de la nation. Concrètement, quels sont les motifs réels de leur revirement?
C'est certain que les égos ont joué un rôle important, en tout cas les ambitions personnelles et politiques, puisque vous le savez, ces deux candidats sont autorisés à concourir à la présidentielle. Tous deux ont fait des bons scores, sont arrivés en deuxième et troisième position en 2011. Donc certainement que ça a joué, et c'est vrai que Félix Tshisekedi, finalement, à plusieurs reprises déjà ces dernières semaines, avait envoyé des signaux comme quoi il risquait de faire cavalier seul. Hein. Il avait par exemple refusé de se joindre à l'appel à manifester de l'opposition contre la machine à voter fin octobre. Quelques jours avant, il avait décidé aussi d'accepter d'aller aux élections avec cette fameuse machine à voter, alors que tout le reste de l'opposition s'y opposait. Bref, tout cela montre bien que ce front commun de l'opposition avait de sérieuses failles. Et c'est un peu la même chose avec Vital Kamerhe, finalement, hein, qui a participé in extremis à la première réunion des sept leaders de l'opposition à Bruxelles en septembre. Il n'était pas là, par contre, à la seconde en Afrique du Sud. Donc lui non plus, même si ce n'était pas ce qu'il disait officiellement, lui non plus ne semblait pas totalement convaincu du bien fondé de son front commun. Donc même si l'UNC a officiellement incriminé le mode de désignation du candidat commun qui a été choisi à Genève, hein, celui d'un vote à deux tours plutôt que de rechercher un consensus qui aurait faussé le résultat, eh bien en réalité, tout le monde pense que l'UNC a plutôt profité du fait que l'UDPS quitte le navire pour faire exactement la même chose. Enfin, il y a ceux qui pensent que le pouvoir pourrait être derrière cette scission de l'opposition pour l'affaiblir un peu plus. C'est vrai que ce sont des pratiques qui se sont déjà vues par le passé en République démocratique du Congo. Ce qui est sûr, c'est que pour le pouvoir, cette incapacité à se mettre d'accord sur un candidat unique est une aubaine pour se donner évidemment plus de chances de remporter cette élection présidentielle fin décembre.
Un boulevard, ont dit certains auditeurs, pour le candidat de la majorité. D'ailleurs, sur Twitter, la plateforme de soutien au candidat de la majorité a immédiatement appelé tous ceux qui ont été déçus par cette réaction de l'opposition congolaise à les rejoindre. Autre question, Léa-Lisa Vesterhoff, on vous garde encore quelques minutes sur l'antenne de RFI. Question posée par Gilles. Bonjour.
Bonjour Anne, bonjour aux auditeurs de RFI.
Nous vous écoutons.
Oui, toujours par rapport à cet accord de l'opposition congolaise, il est prévu quelque part dedans que ceux qui quitteraient l'accord soient punis, soient sanctionnés par leur père. Que revêt cet article qui parle de sanctions ?
Alors, effectivement, bonne question. Léa-Lisa Vesterhoff, suite au revirement de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, la fondation Kofi Annan, qui a facilité les pourparlers vendredi, samedi et dimanche dernier à Genève, la fondation Kofi Annan a rendu public tous les engagements pris par les opposants et il est écrit qu'en cas de rupture de l'accord, le ou les contrevenants seraient sanctionnés par leur père. Que faut-il comprendre par là ?
Oui, alors cet engagement, c'est en fait un deuxième engagement qui avait été signé à côté, individuellement, par chacun des sept opposants. C'est eux-mêmes qui ont eu l'idée de ce texte supplémentaire et qui l'ont d'ailleurs rédigé ensemble. Évidemment, l'idée, c'était de constituer un garde-fou supplémentaire pour s'assurer du respect de cet accord. Et c'est bien parce que la suspicion était forte et la crainte d'une trahison était déjà forte à Genève que ces opposants se sont dit qu'ils allaient mettre en place ce deuxième engagement. Alors, là non plus, ça n'a pas marché. Ces termes extrêmement solennels de mettre fin à leur carrière politique en cas de rupture de l'accord devaient aider à ce que chacun le respecte. Ça n'a pas fonctionné. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement ? C'est avant tout une mesure symbolique, vous vous en doutez. Il n'y aura pas de sanctions concrètes suite à ce non-respect de l'accord. L'idée, c'était que ça serait tellement ridicule finalement. La personne se sentirait tellement ridicule par la publication de ce document que ça devait l'empêcher de le violer. Bon, eh bien, visiblement, le ridicule ne tue pas, et surtout pas en politique, ça on le sait. Tout continue comme avant, en tout cas à Kinshasa. Je ne pense pas du tout que Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi aient décidé de mettre fin à leur carrière politique. Bien au contraire, ils se sont dit candidats à l'élection. Et puis finalement, chacun a continué à faire comme si de rien n'était et s'est renvoyé la balle hier dans des déclarations en se rejetant la faute de qui a respecté quoi et quel engagement. Bref, tout continue.
Ouais, tout continue. D'ailleurs, les autres signataires de cet accord... et hormis donc Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, se retrouvent aujourd'hui à Bruxelles pour la marche à suivre. Donc on sera évidemment sur place et on vous tiendra informé. Merci beaucoup Léa Lisa Vesterov d'avoir été avec nous ce matin. Vous prenez l'émission en cours, vous souhaitez peut-être réécouter certaines des réponses de nos confrères, de nos journalistes envoyés spéciaux, n'hésitez pas. Rendez-vous évidemment sur l'application Pure Radio, sur le site internet RFI, et vous pouvez également réécouter sans modération sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Il est 9h25 à Paris, Julie Vandal du service Afrique est avec nous. Bonjour Julie.
Bonjour Juan.
Merci de nous rejoindre à l'instant. On a reçu des questions sur Peter Pham, le nouvel émissaire américain pour la région des Grands Lacs. Bonjour Hervé.
Bonjour Juan, bonjour RFI, bonjour la radio du monde.
Nous vous écoutons.
Oui, les États-Unis d'Amérique viennent de nommer un nouvel envoyé spécial dans la région des Grands Lacs africains. En 2012, M. Peter Pan a tenu des propos chocs, notamment sur la partition de la République démocratique du Congo. Alors, comment expliquer ce choix ?
Ah, bonne question, Julie Vandal. C'est vrai que Peter Pham est un fin connaisseur du continent africain, mais il ne mâche pas ses mots. Il a effectivement défrayé la chronique en tenant des propos polémiques sur la République démocratique du Congo. C'était en novembre 2012, dans une tribune publiée dans le New York Times, tribune intitulée « Pour sauver le Congo, laissons-le s'effondrer ». Alors, que dit-il dans cette tribune ? Eh bien, il estime que la RDC est un pays artificiel, fictif, aux frontières héritées de l'ère coloniale, et à l'époque il avait ouvertement pris position pour la partition du pays, pour l'éclatement de la RDC en plusieurs états. Donc on comprend évidemment la question d'Hervé, notre auditeur, comment dans un tel contexte Donald Trump, en tout cas le secrétaire d'état américain, peut-il nommer Peter Pham au poste d'émissaire pour l'Afrique dans les Grands Lacs.
Alors officiellement, hein, Peter Pham a été nommé en raison de son profil, à savoir son expérience et ses publications. C'est en tout cas ce qu'a indiqué une source au sein de la diplomatie américaine. Il faut dire que Peter Pham a un CV long comme le bras. Il est né à Paris dans une famille d'origine vietnamienne, diplômé en économie. Il a un temps été pasteur, puis professeur d'études africaines et de sciences politiques dans une université de l'État de Virginie. C'est un spécialiste des relations internationales et des questions stratégiques, fin connaisseur, vous le disiez Juan, du continent africain et plus spécialement de la région des Grands Lacs. À son actif, plus de 300 publications, de fréquents témoignages devant le Congrès américain, des briefs d'officiels de l'administration. Bref, Peter Pham compte. Il avait d'ailleurs un temps été pressenti bien pour prendre le poste de sous-secrétaire d'État aux affaires africaines.
Et c'est finalement en tant qu'envoyé spécial pour les Grands Lacs qu'il va officier. Il y a, j'imagine, derrière cette nomination, une dimension politique.
Oui, bien évidemment. Alors attention pour la diplomatie américaine et pour répondre à Hervé, il est inutile de s'apesantir sur les propos que Peter Pham a tenus par le passé. Vous le disiez, Peter Pham a signé cette tribune en 2012 dans le New York Times, c'était donc il y a presque 9 ans. Et Kikaya Binkaroubi, le conseiller diplomatique du président Joseph Kabila, avec qui je me suis entretenue, disait avoir discuté avec Peter Pham récemment sur le sujet. Il estimait, eh bien, que Peter Pham avait un peu adouci sa position. En tous les cas, pour Washington, ses propos sont, eh bien, une distraction, pour employer les mots d'une source au sein de la diplomatie américaine. Le seul sujet sur lequel il faut s'apesantir aujourd'hui, dit cette source, c'est la question de la gouvernance en RDC, qui n'a, je cite, jamais été bonne. Dans le contexte politique congolais actuel, eh bien, ses propos en disent long sur la position des États-Unis. Officiellement, en tout cas, Peter Pham est présenté comme un ardent défenseur d'une relation forte entre les États-Unis et l'Afrique. Mais pour certains analystes, eh bien, sa nomination est un moyen pour Washington de faire pression, entre autres, sur les dirigeants congolais. Pression, eh bien, que résume très bien Sacha Lesneff. Il est directeur adjoint du projet INOF. C'est une organisation américaine active dans la recherche de la paix en Afrique. Et il déclare ceci: la nomination de Peter Pham en tant qu'envoyé spécial américain, dit-il, envoie un message fort à Kabila et à Chadari, à savoir Emmanuel Ramazani Chadari, qui est le dauphin de Kabila. Le Congo doit faire beaucoup plus pour rendre le processus électoral crédible et lutter contre la corruption.
Alors Hervé, il nous reste à peine une minute. Vous aviez une dernière question.
Oui, ma dernière question sera: quel est vraiment son rôle spécifique en tant qu'envoyé spécial? Et sa mission n'est-elle pas celle d'un ambassadeur, par exemple?
Alors, ça n'a rien à voir.
Alors, Hervé, non, pas du tout. Le rôle d'un envoyé spécial n'est pas celui d'un ambassadeur. Il vient en quelque sorte en complément, en parallèle, si vous voulez. Les ambassadeurs traitent des questions bilatérales. L'émissaire américain, lui, eh bien, a un mandat régional. En l'occurrence, la mission de Peter Pham est extrêmement précise. Selon le département d'État, elle porte sur 3 points définis comme tels. La coordination de la politique américaine sur les questions transfrontalières en matière de sécurité, de politique et d'économie dans la région. Le renforcement des institutions démocratiques et de la société civile. Et le retour sûr et volontaire des habitants de la région réfugiés et des personnes déplacées dans leur propre pays. Alors, les ambassadeurs en poste, bien sûr, dans les pays, travailleront étroitement avec Peter Pham. Ils prendront part aux réunions, mais Peter Pham sera basé à Washington et il sera sous la direction de Tibor Peter Nagy, qui est le secrétaire d'État adjoint pour les affaires africaines, le monsieur Afrique des États-Unis.
Merci beaucoup, Julie Vandal, d'être venue répondre à Hervé, à qui on souhaite une bonne journée, évidemment, à l'écoute de RFI. Il est 9h30 à Paris.